Alors, pour commencer, je vais essayer de dresser un peu le cadre de ces guides ALD à partir d'un document méthodologique. Ah, pardon. Donc, ces guides ALD, je pense que vous les avez tous vus passer, mais on veut attirer votre attention sur leur intérêt. C'est un travail qui a été fait par l'HAS, qui continue à être fait par l'HAS, à la demande de l'assurance maladie. Il s'agit bien d'un objectif d'amélioration de la qualité des soins. Ça concerne évidemment des pathologies qui sont plus ou moins fréquentes en médecine générale, mais vous verrez, on va envisager un certain nombre de pathologies très fréquentes. Et c'est pour nous une opportunité pour disposer d'outils qui sont facilement accessibles et qui sont synthétiques, ce qui est quand même assez utile pour notre pratique habituelle. Et par ailleurs, et ça vous l'avez peut-être vu également, il y a des documents qui sont destinés aux malades, dont je parlerai très rapidement. Alors, comme toujours lorsque c'est la HAS, c'est une démarche d'élaboration qui est tout à fait rigoureuse, qui part d'une synthèse des recommandations existantes. Ça ne sort pas ex nihilo, mais ça s'appuie sur des recommandations professionnelles sur une maladie particulière. Il y a, comme souvent là aussi dans le travail de la HAS, un groupe pluridisciplinaire qui réalise un consensus et propose un guide. Et vous savez qu'il y a également une liste d'actes concernant cette pathologie. Les documents sont soumis pour avis à un ensemble de médecins, qui soient des généralistes, des médecins conseils, mais également à des associations de patients. Il y a un groupe technique qui en évalue l'impact économique, en particulier pour les critères d'admission en ALD. Il y a une validation qui est réalisée au niveau de la HAS et... Ce qui est intéressant, c'est qu'une mise à jour est prévue tous les 3 ans. On aura peut-être l'occasion d'en discuter avec certaines des présentations qui seront faites tout à l'heure. Voilà, schématiquement, je ne vais pas reprendre, mais c'est pour vous montrer effectivement la structuration de ce travail avec les différentes étapes qui permet effectivement de passer de données de la science à des groupes de travail pour arriver à un document finalisé. Et ce travail est normalement réalisé autour de disons, une trentaine de semaines. Alors, il y a un contenu qui est assez standard, avec une présentation globale de la maladie, mais également une synthèse concernant le bilan initial, et toutes ces étapes, vous allez les retrouver avec les guides qui vous seront présentés. La prise en charge thérapeutique, le suivi et les aspects sociaux sont particulièrement développés. Le dernier point dont je voulais vous parler également, vous l'avez peut-être vu, et, puisque lorsqu'on vous renvoie l'acceptation concernant la proposition de prise en charge en ALD, vous avez souvent ce document. Pour la plupart de ces guides ALD, il y a également un guide patient, qui est tout à fait intéressant pour nous, puisque ça permet de disposer pour nos patients de documents qui sont là aussi synthétiques, qui s'appuient sur des données validées et qui sont très en regard, justement, de ces documents destinés aux médecins. Ça concerne également la maladie, les moyens mis en œuvre, la place de l'éducation thérapeutique, le rôle des intervenants et le suivi. Et normalement, vous aurez ça pour tous les guides qui vont... être mis sur pied. Pour l'instant, il y en a certains qui n'ont pas cette partie patient.
Bonjour. Nous allons nous intéresser au guide ALD5, dans l'esprit dans lequel Jean-Louis Demaune vous a dit que nous allons travailler. Et nous allons nous intéresser dans cet ALD5, qui est consacré aux troubles du rythme grave. Vous allez voir de façon quasi exhaustive de la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, c'est quelque chose de fréquent. Et je vous envoie tout de suite un électrocardiogramme, parce que dans notre tête de médecine, en tant que médecin généraliste, ça renvoie à un électrocardiogramme. Alors, la définition de la fibrillation auriculaire, ce sont des contractions auriculaires anarchiques, qui se traduisent par une activité électrique anarchique aussi, et une irrégularité totale des contractions ventriculaires. Si vous avez un électrocardiographe en tant que généraliste, vous pouvez asseoir votre diagnostic que vous avez un petit peu pressenti à l'oreille, vous pouvez l'asseoir en faisant un électrocardiogramme, et je vous presse d'avoir un électrocardiogramme dans vos cabinet, car ça peut être utile aux patients. Il y a trois sortes de fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire paroxystique, persistante ou permanente. Il y a donc trois formes différentes. La fibrillation auriculaire paroxystique récidivante se termine spontanément en moins de 7 jours, généralement en 48 heures, avec des récidives entrecoupées d'épisodes en rythme sinusal. La fibrillation auriculaire persistante, récurrente, qui ne cède pas spontanément, qui nécessite donc un choc électrique ou un traitement pharmacologique pour être réduite, et les récurrences sont là supérieures à 7 jours, et entre ces épisodes de récurrence, on a des épisodes de rythme sinusal. Et enfin, celle qu'on voit le plus souvent au cabinet de médecine générale, la fibrillation auriculaire permanente, qui nécessite, elle, plus un traitement, on va le voir, de maintien d'un rythme acceptable plutôt qu'une cardioversion. C'est une pathologie fréquente en soins primaires et potentiellement grave. Si ça touche moins de 1% des sujets de moins de 60 ans, la prévalence chez les sujets âgés de plus de 80 ans est supérieure à 8%. Il faut noter aussi que la fibrillation isolée, sans pathologie cardio-pulmonaire associée, est rare dans nos patientèles, puisque c'est dans toutes les études entre 12 et 30% des fibrillations auriculaires. Souvenons-nous surtout que la gravité de la fibrillation auriculaire est liée au risque thromboembolique, mais pas seulement au risque thromboembolique, aussi à la cardiopathie sous-jacente et au risque d'insuffisance cardiaque, car les patients vont mourir de ces deux dernières pathologies. La fréquence de survenue d'un AVC ischémique chez les patients sans atteinte valvulaire rhumatismale est de 5% par an, soit 2 à 7 fois la fréquence en l'absence de fibrillation auriculaire. Ce qui veut dire qu'on a un très grand risque thromboembolique avec fibrillation auriculaire, et plus on avance en âge, plus ce risque augmente. On va faire un bilan, lorsqu'on est en généraliste en son cabinet, avec une arrière-pensée décisionnelle. Qu'est-ce que je vais faire avec mon patient en fibrillation auriculaire? Eh bien, il va falloir faire assez vite un bilan à trois volets, clinique, électrique, biologique, avec une arrière-pensée d'un avis spécialisé auquel nous aurons recours le plus souvent. Bilan clinique. S'il y a des symptômes, dyspnée, palpitations, malaise, syncope, etc., des symptômes bruyants, nous devrons passer la main facilement au cardiologue. Il faudra se renseigner sur la fréquence des crises, sur la durée, sur le mode de transmission. Quand est-ce qu'elle a commencé, cette crise, ce début? Si la crise est récente et de moins de 48 heures, on peut et on doit adresser un patient au cardiologue pour faire une cardioversion rapidement si besoin est. Il faut s'intéresser aux réponses au traitement pharmacologique préalable, voir si le patient est en bon état hémodynamique et en cas d'insuffisance cardiaque, j'hospitalise mon patient. On regardera s'il y a des épisodes antérieurs. On essaiera de typer la fibrillation, et ça c'est assez simple, en paroxystique persistante ou permanente, tout en sachant que la fibrillation est considérée comme récurrente dès le deuxième épisode. On va faire un tracé pour assurer le diagnostic. Le tracé nous apporte et le diagnostic et la fréquence cardiaque. Et nous verrons sur le tracé s'il y a des arguments pour une myocardiopathie ou une cardiopathie ischémique sous-jacente. On fera une biologie à visée étiologique et aussi à visée pré-thérapeutique, TSH, glycémie, créatinine, kaliémie, hémogramme, plaquettes, temps de pic spontané. Et on aura toujours en tête, je vous le redis, l'avis spécialisé, car on a souvent besoin d'une échographie transthoracique pour juger de la taille de l'oreillette et les complications cardiaques au niveau du myocarde. Le cardiologue pourra aussi faire une échographie transœsophagienne, radiographie standard, Holter, épreuve d'effort pour asseoir le diagnostic. La prise en charge doit être globale et individualisée. Je vous redis que le patient ne meurt pas que de sa fibrillation auriculaire, qu'il doit prendre en charge les facteurs cardiovasculaires globaux, car les risques cardiovasculaires globaux est l'élément aussi important à prendre en charge que la fibrillation auriculaire. On prend en charge le tabagisme, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète, sans oublier l'alcool, qui est spécifique à la fibrillation auriculaire, puisque ça peut être une cause d'accès de fibrillation auriculaire. On fera un bilan clinique global, comme nous savons faire en médecine générale, en tenant compte de l'âge, comme facteur de risque embolique et aussi comme facteur de risque d'insuffisance cardiaque et comme facteur de risque athérapeutique, en particulier aux anticoagulants. On recherchera les pathologies déclenchantes et associées qui majorent le risque thromboembolique ou hémorragique, je viens de vous le dire. On fera une évaluation psychosociale pour avoir des objectifs thérapeutiques et d'éducation du patient réaliste. Et surtout, on aura toujours en tête qu'il faut coordonner pour le patient nos soins, en améliorant la qualité des soins, comme vous a dit Jean-Louis Demeau, en coordonnant l'intervention autour du patient. Un des gros problèmes est d'évaluer le risque thromboembolique. Ce sont les fameux critères CHAT2 que vous connaissez tous. Sont considérés comme facteurs de risque modérés. L'âge supérieur de 75 ans, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection ventriculaire gauche qui doit être inférieure à 35%, et le diabète. Donc ça, ce sont les facteurs de risque modérés. On va voir ce qu'on en fait. Sont considérés comme facteurs de risque élevés les antécédents d'AVC, d'AIT ou d'embolie, la sténose mitrale, la valve cardiaque prothétique. Je vous dis tout de suite que si on est dans la colonne de droite avec des facteurs de risque élevés, vous devez mettre votre patient a priori sous AVK, avec une valeur cible entre 2 et 3, valeur cible de 5. S'il y a une valve cardiaque, la valeur cible va être de 3. Deuxième problème, lorsqu'on est sur la prévention du risque thromboembolique, aspirine ou AVK. En attendant, je dirais, l'apparition des médicaments modernes qui vont arriver, nous avons classé, pour décider, nous avons ce tableau. S'il n'y a pas de facteur de risque, aspirine seule, 75 à 325 mg par jour. Un seul facteur de risque modéré, aspirine 75 à 325 mg par jour ou AVK. Et dans ce cas, lorsqu'il y a un facteur de risque modéré, le patient peut avoir son mot à dire et vous devez discuter avec lui de des modalités pratiques de la mise en route du traitement parce que le choix du patient a son importance. Et s'il y a un facteur de risque élevé ou plus d'un facteur de risque modéré, on devra mettre le patient sous AVK. Chaque fois, bien sûr, vous évaluerez le rapport bénéfice-risque avec le risque hémorragique. Et n'oubliez pas que s'il y a une cardioversion, c'est le cardiologue qui évaluera le risque en fonction de la date d'installation, etc., du contexte global. Il faudra éduquer notre patient au cabinet. C'est un processus au long cours. Cette éducation concerne la fibrillation maladie. On apprend au patient à reconnaître ses signes de décompensation pour qu'il consulte vite. On lui apprend à gérer la thérapeutique antiarythmique ou la thérapeutique antithrombotique en lui enseignant les signes d'alerte. Et on lui demande de dire à tous les soignants qu'il est sous AVK. Pour cela, nous disposons d'outils. Il y a des carnets de surveillance aux AVK, carnet d'information de suivi du traitement par AVK, qui est disponible sur le site de la SFAPS. Je vous laisse noter. Il y a aussi le guide patient HAS dont vous a parlé Jean-Louis Demeau, la prise en charge de votre fibrillation auriculaire qui date d'octobre 2008. Donc ce sont des outils qu'on peut remettre au patient pour servir de base un travail éducatif. L'objectif bien sûr de l'éducation, c'est d'autonomiser le patient. Et la méthode, c'est un diagnostic éducatif, c'est-à-dire qu'on va partir de ce que c'est le patient, de ce qu'il est capable d'entendre, de faire quelque chose de personnalisé et d'adapté à nos patients quand c'est au cabinet que ça se passe. Est-ce qu'on peut arrêter les AVK? Question fréquente. Si on a des procédures diagnostiques ou thérapeutiques, ils nous posent souvent la question, le dentiste nous pose la question, que doit-on faire? Eh bien, c'est très simple. Si on n'a pas de valve mécanique, on peut arrêter le traitement antithrombotique 7 jours, sans problème. S'il y a une valve cardiaque, il faudra faire un relais épariné. Et si le patient est à haut risque cardiovasculaire, qu'il a fait un AVC, qu'il a fait un AIT, un accident thromboembolique, ou si l'arrêt de travail, l'arrêt de thérapeutique à prévoir est supérieur à 7 jours, il faudra passer à l'héparine. Deuxième problème, pour résoudre le problème de fibrillation auriculaire au cabinet, doit-on contrôler la fréquence cardiaque ou contrôler le rythme? Alors là, il y a deux... Je vais simplifier le tableau que je vous envoie. Si vous avez une fibrillation auriculaire récidivante, on s'oriente plutôt vers le contrôle du rythme, le remettre en rythme sinusal. Si la fibrillation est permanente, ce qui est le cas le plus fréquent dans nos clientèles avec des personnes âgées, on s'oriente vers le contrôle de la fréquence cardiaque. Entre les deux, si la fibrillation est persistante, récurrente, on se sert de divers arguments pour aller dans un sens ou dans l'autre. On essaiera d'abord le contrôle du rythme pour les patients avec fibrillation persistante, si les patients sont symptomatiques, jeunes, si la fibrillation secondaire a une cause favorisante, traitée ou corrigée, ou si elle a une insuffisance cardiaque congestive. On essaiera d'abord le contrôle des fréquences cardiaques pour les patients en fibrillation persistante, s'ils sont âgés de plus de 65 ans, s'ils sont coronariens, s'il y a une contre-indication au traitement antiarythmique, s'ils sont récusés pour la cardioversion ou si on doit utiliser un traitement antiarythmique. Quant au contrôle de la fréquence cardiaque, l'objectif, c'est de mettre le patient au repos entre 60 et 80 par minute. C'est la stratégie recommandée pour une majorité des fibrillations auriculaires que nous voyons en patientèle. On utilise, pour arriver à cette fréquence-là, les bêta-bloquants, le métoprolol, le propanolol, les inhibiteurs calciques qui sont bradycardisants, c'est-à-dire le diltiazem, et le verapamil. Si le patient a une insuffisance cardiaque, et si le cœur est rapide, on peut éventuellement discuter la digoxine. Pour ce qui est du contrôle du rythme, c'est-à-dire de remettre le patient en rythme sinusal, là, il faut faire une cardioversion qui peut être électrique, c'est général, ou cardioversion pharmacologique à l'aide de médicaments. Et ensuite, on fera, une fois qu'on aura obtenu un rythme sinusal, on fera une thérapeutique pour maintenir le traitement et le cœur sinusal. Si la fibrillation est paroxystique récidivante, que doit-on faire dans le cabinet? Eh bien, s'il y a pas de symptômes, à la limite, on peut se débrouiller seul. On fait de toute façon un traitement anti-embolique et on peut ne pas faire de traitement pour prévenir les nouveaux accès. Par contre, s'il y a des symptômes invalidants, il faut passer la main, car là, il y aura des thérapeutiques médicamenteuses, voire une ablation et des techniques ultérieurement plus compliquées à mettre en œuvre. Et là, c'est le cardiologue qui décidera. Si on doit effectivement traiter ce pharmaco la fibrillation persistante, récurrente ou permanente, comment fait-on? Si la fibrillation auriculaire est permanente, et c'est le cas le plus fréquent, c'est les personnes âgées qu'on voit, traitement antithrombotique, quasiment toujours, et contrôle éventuel de la fréquence cardiaque. Là, c'est simple. Si la fibrillation est persistante, récurrente, s'il y a peu de symptômes, traitement antithrombotique, mais là, il faudra prendre l'avis du cardiologue pour mettre en route les thérapeutiques qui peuvent contrôler le rythme et la fréquence cardiaque. Si on a des symptômes invalidants, vous passerez la main, comme toujours, quand vous avez un symptôme invalidant en fibrillation auriculaire, vous passerez la main parce qu'il y aura un traitement antiarythmique, une cardioversion éventuelle, il y aura tout un process, vous voyez, qui est compliqué, on le voit bien sur cette étape décisionnelle, qui peut aller jusqu'à l'ablation. Donc, dans ces cas-là, vous passez la main parce qu'il y a un syndrome invalidant et que c'est mal supporté. Pour maintenir le rythme sinusal, que diable cet arbre décisionnel est compliqué. Eh bien, il ne vous appartient pas puisque...
Une minute et demie.
Combien ?
Une minute et demie.
Eh bien, là, je termine. Là, c'est très simple. Lorsque le patient est passé en cardiologie, vous surveillerez simplement que la thérapeutique qui est instaurée par le cardiologue n'a pas été suivie d'effets secondaires. Donc, pour suivre le patient, que fait-on en médecine générale? Eh bien, d'abord, on fait le diagnostic, on met le patient en ALD, on remplit le protocole, on s'occupe du patient, on le suit sur les objectifs de suivi de la fréquence cardiaque ou de suivi du rythme. On suit essentiellement les traitements médicamenteux par AVK, parce que c'est ça qui nous occupe le plus souvent en médecine générale, en faisant une INR deux fois par semaine au début du traitement, puis une fois par mois quand c'est équilibré, on vérifie l'observance et on fera une TSH tous les 6 mois, surtout sur les patients sous cordarone. On veillera au survenu des récidives et des complications et on passera la main au cardiologue, car le cardiologue, même quand ça va bien, doit être consulté une fois par an pour au moins un ECG, éventuellement des examens complémentaires plus importants. On servit de base à ce travail pour le guide LD5, des recommandations conjointes des sociétés cardiologiques américaines et européennes et les recommandations du NICE, c'est-à-dire le National Institute for Health and Clinical Excellence, qui est anglais. Et ce sont ces trois, la synthèse de ce travail, qui nous a permis de faire cette recommandation. Je vous remercie. Oui, dans la mesure où ce patient est éligible aux AVK. S'il bénéficie d'un traitement par AVK au long cours, il peut bénéficier de l'ALD. C'est aussi simple que ça. Mais bien sûr, il faudra savoir si c'est une diffusion récurrente, permanente. Enfin, il faut savoir un petit peu typer le type de diffusion réculaire. De nombreux travaux qui ont effectivement qui nous apportent leur lumière sur le problème du risque. Alors, il faut toujours se rappeler qu'on est dans une évaluation du bénéfice-risque. Alors, le bénéfice, il est très important par rapport au risque thromboembolique, AVC. Ça, c'est tout à fait clair. Parce que un patient de plus de 80 ans en fibrillation auriculaire va avoir 23% de chances de faire un AVC, un AIT dans l'année. Donc, c'est considérable. On sait qu'avec les antivitamines K, on va diminuer, je dirais, le nombre d'accidents par deux. Donc, c'est 63% même. Donc, c'est tout à fait considérable. Par contre, le risque, l'âge, augmente aussi, est un des facteurs de risque, je dirais, d'accidents hémorragiques. Mais ce n'est qu'un élément. Or, la tendance que l'on a retrouvée dans toutes les études, c'est qu'on n'utilise pas assez les AVK, parce que le rapport bénéfice-risque penche plus souvent en leur faveur qu'on ne voudrait. Alors, on a des critères de risque hémorragique qui sont bien connus. Il y a l'étude Hémor dosage qui est parue dans l'American Heart Journal en 2006, qui nous les donne, je vous les lis, insuffisance rénale ou hépatique, alcool, cancer, âge plus de 75 ans, mais là on voit que c'est un risque hémorragique, mais c'est un facteur parmi d'autres, thrombopénie, antécédent hémorragique ou hospitalisation pour saignement, anémie, chute, AVC. Donc voilà les éléments qui pèsent contre l'usage des AVK. Mais quand on met dans la balance les deux, très souvent, il vaut mieux utiliser les AVK et ils sont sous-employés actuellement en France. Si on craint effectivement, enfin, je crois qu'il faut typer, il faut faire le diagnostic et prendre les tableaux de risque de SCHATS-2 que je vous ai donnés. Si la fibrillation est toute récente, que c'est peut-être quelque chose de paroxystique, qu'il n'y a pas de facteur de risque par ailleurs, il n'y a pas d'urgence à faire il n'est pas menacé par un AVC sur les 24 heures, puisqu'on peut même arrêter les AVC pour des soins chez des patients qui sont sous traitement. Une façon de révéler une fibrillation auriculaire est classiquement l'AVC ou l'AIT. C'est à l'occasion de ce trouble neurologique qu'on découvre l'AFA, effectivement. Si l'AFA dure moins de 48 heures, sur un cœur sain, le risque embolique est très faible, puisqu'on peut, dans certains cas, se dispenser d'un traitement antithrombotique chez des patients qui ont des cœurs sains et des FA très très récentes. D'accord ? Mais dès qu'on a passé 48 heures, effectivement, là, il faudra apprécier le risque thromboembolique, mesurer l'oreillette et voir s'il y a un risque d'avoir un caillot dans cette oreillette gauche pour être certain qu'il n'y ait pas de caillot et qu'on ne risque pas, au moment de la réduction, avoir un risque embolique. Donc, en principe, le cardiologue, sur une cardioversion tout venant, une cardioversion électrique, par exemple, il y a 3-4 semaines de traitement antithrombotique, 3-4 semaines, et 3 semaines et 4 semaines après la réduction, pour encadrer le risque par rapport à la réduction.
Bien, le guide de diabète de type 2 est assez fourni, il est assez important, et on a dû faire un peu quelques coupes pour essayer de s'axer sur ce qui paraissait le plus pratique pour nous, médecins généralistes, dans la demande d'ALD de nos patients diabétiques. Alors on va voir, en dehors des complications, parce que si on traite les complications, on n'en finit plus, mais en dehors des complications, qu'est-ce qui est important dans le bilan initial, dans la prise en charge thérapeutique et dans le suivi de nos patients diabétiques de type 2 ? Alors, deux objectifs au bilan initial, identifier les facteurs de risque associés en permettant l'estimation du risque cardiovasculaire global. Ça, c'est une notion qui est importante, c'est-à-dire que le diabète, bien sûr, en lui-même est une maladie, mais c'est surtout un facteur de risque important qui doit être mis au milieu des autres facteurs de risque. Traiter correctement un diabétique sans prendre en compte les facteurs de risque associés, c'est faire que la moitié du travail. Or, manifestement, il existe dans nos populations de patients des patients dont les diabètes sont à peu près bien équilibrés, mais qui sont par ailleurs porteurs d'autres facteurs de risque sur lesquels une moindre attention est portée, et c'est très dommageable parce que finalement ce qui compte, c'est l'impact sur la microcirculation et sur la circulation en général, et donc les autres facteurs de risque qu'a rappelé Jean-Louis tout à l'heure, le tabac, les dyslipidémies, l'obésité, l'attention sont également nécessaires et importants et essentiels dans la prise en charge du diabète. Deuxième objectif de ce bilan initial, évaluer la recherche des atteintes sur les organes cibles, alors que je vous ai mis, mais que vous connaissez tous, les yeux, le rein, le système nerveux, le système cardiovasculaire, qui est peut-être d'ailleurs à mettre en première place, et le pied. Et évidemment, un certain nombre de patients diabétiques qui découvrent leur diabète ont parfois une ancienneté telle que des complications sont déjà installées et que donc même pour le patient chez qui le diabète vient d'être découvert, il est important de chercher ces éventuelles atteintes des organes cibles. On passe directement à la prise en charge thérapeutique qui est centrée sur deux objectifs qui sont bien entendu le corollaire de ce qui vient d'être vu avant, c'est-à-dire le contrôle glycémique et le contrôle des facteurs de risque associés. Le contrôle glycémique, bien entendu, ça maintenant s'est passé dans les mœurs, il consiste à un contrôle de l'hémoglobine glyquée, en veillant quand même à tenir compte d'un certain nombre de facteurs que sont l'âge, l'ancienneté du diabète, les situations dites particulières, sociales ou autres, et le du risque hypoglycémique. Et à ce sujet, il est bon de rappeler que des études récentes ont montré que des objectifs trop serré d'hémoglobine glyquée chez des patients diabétiques anciens obtenait des résultats inverses de ce qu'on souhaitait puisque la mortalité était supérieure. C'est-à-dire que si on en prend des diabétiques, alors je répète encore une fois, c'est des diabétiques anciens, hein, c'est pas des diabétiques récemment découverts, mais que l'on se met tout d'un coup à leur donner un traitement intensif pour ramener leur hémoglobine glyquée dans des chiffres très bas, on génère beaucoup d'accidents hypoglycémiques, nocturnes en particulier, qui sont l'occasion d'accidents neurologiques. Et donc, on s'est aperçu que cette population qui était prise en charge de façon intensive avait une mortalité supérieure à ceux pour lesquels la prise en charge était plus raisonnée en termes d'objectifs d'hémoglobine glyquée. L'éducation thérapeutique est un élément essentiel dans la prise en charge de nos patients diabétiques, du début jusqu'à la fin. N'oublions pas que une éducation thérapeutique qui se met en place de façon efficace peut permettre de retarder la prise en charge médicamenteuse de plusieurs années, 3, 4, 5, 6 ans. Et quand on sait qu'on va avoir dans notre besace un certain nombre de médications qui vont être utilisés successivement au cours de l'évolution du diabète, on comprend l'intérêt de retarder le plus possible la mise en œuvre de ces thérapeutiques. Alors cette éducation nutritionnelle, cette éducation thérapeutique va comporter bien sûr un volet nutritionnel dans lequel une seule chose doit être retenue, c'est la réduction des lipides surtout saturés. On a tous envie, bien entendu, et on sait tous faire une réduction des sucres. Ça, c'est quelque chose qui est évident. On sait que pour faire maigrir un diabétique de type 2, c'est la réduction des lipides qui va être l'élément déterminant. Pourquoi ? Ben parce que je vous rappellerai qu'un gramme de lipides, c'est 9 calories, et un gramme de glucides, c'est 4 calories. Donc, chaque fois qu'on gagne un gramme de lipides, on agit beaucoup plus efficacement sur le poids. Et c'est ce qui explique que parfois nos patients disent « Docteur, je n'ai pas mangé de sucre et pourtant je n'ai pas maigri ». Oui, parce qu'il a compensé tous les glucides qu'on lui a supprimés par les lipides dont on ne lui a pas parlé. Donc, voilà. Donc un diabétique doit manger des aliments dits de sucre lent et on doit être assez strict sur la réduction des lipides. L'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui nécessite une compétence spécifique et le grand intérêt, ce que j'ai mis dans le dernier paragraphe, c'est une coordination entre les professionnels qui, bien entendu, par l'homogénéité du travail éducatif, sera beaucoup plus performante que la juxtaposition d'interventions isolées. Les traitements pharmacologiques que l'on a en cours. Alors, vous allez voir tout de suite qu'il manque une classe, on en fera une petite parenthèse après. Les antidiabétiques oraux comprennent quatre classes, donc la classique metformine, les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, les insulinosécréteurs, qui regroupent donc les glinides et les subfamiles hypoglycémiants, et les glitazones. Donc on va avoir une armée, quelques thérapeutiques qui vont devoir être utilisées de façon cohérente et justifiée dans la stratégie de prise en charge. Alors, les différentes étapes de traitement ont été définies dans la recommandation AFSAP-HAS en 2006 pour le diabète découvert à un stade précoce. Et le tableau suivant, qui est un peu, qui paraît un peu compliqué, va nous résumer ça. Donc, on va avoir sur la colonne de gauche la situation en termes d'hémoglobine glycée. Dans la colonne du centre, les possibilités thérapeutiques. Et dans la colonne de droite, les objectifs d'hémoglobine glycée que l'on peut espérer. Alors, vous voyez que les premières mesures, MHD, ça veut dire mesure hygiéno-diététique. Quand les mesures hygiéno-diététiques sont insuffisantes et qu'on a une hémoglobine qui reste entre 6 et 6,5, on est en droit de prescrire une monothérapie. Ensuite, je descends dans le tableau, si la monothérapie est insuffisante, on va rajouter, on va faire une bithérapie, puis une trithérapie, puis un passage à l'insuline. Alors la monothérapie, c'est très souvent, dans le diabète de type 2, un médicament qui agit contre l'insulinorésistance, et le prince des thérapeutiques, c'est évidemment la metformine à ce niveau. L'autre médicament qui agit sur l'insulinorésistance, ce sont les glitazones. Elles ne sont pas, dans ce tableau, mises en première intention, sauf si il y a une contre-indication à la metformine et que les IAG ont aussi été utilisés. Donc voilà. Ensuite, dans une deuxième étape, quand on va passer en bithérapie, il est logique d'associer soit deux médicaments qui agissent contre l'insulinorésistance, si on estime que c'est le facteur essentiel, donc on associera glitazone et metformine, il existe des médicaments associant les deux thérapeutiques, en sachant que les glitazones ont l'inconvénient de faire prendre du poids, et qu'effectivement, c'est un élément à prendre en compte dans un diabète pour lequel le surpoids est un élément néfaste. Autrement, vous voyez dans cette partie-là que tout peut être associé en quelque sorte. On peut associer metformine insulino-sécréteur, c'est-à-dire metformine plus sulfamine ou metformine plus glinide. On peut associer un insulino-sécréteur à un inhibiteur de l'alpha-glucosidase. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles dans cette recommandation, avec une place qui n'est pas déterminée pour les inhibiteurs de la DPP4 et plus largement des gliptines, dont on va parler donc après. En trithérapie, on va avoir les possibilités de cumul de trois thérapeutiques en éventuellement introduisant une insuline. À ce moment-là, les glitazones disons que s'il y a une petite dose d'insuline, on peut garder des insulinosécréteurs. Sinon, quand on a une insulinothérapie complète, on associe metformine, ADO, c'est la dernière colonne, sauf les glitazones, en sachant que les sulfamides, pour le risque d'hypoglycémie majorée en association avec l'insuline, ne sont pas recommandées là non plus. Et vous voyez dans la colonne de droite que les objectifs d'hémoglobine glycée augmente effectivement avec l'évolution du diabète. À mesure que le diabète vieillit, on est moins strict sur les valeurs de l'hémoglobine glycée. Et il faut dire que cette recommandation est sortie avant les études dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'il est donc souhaitable de ne pas être trop exigeant pour nos patients qui ont 15, 20, 25 ans d'ancienneté du diabète, parce qu'on risque de générer plus d'accidents secondaires que de bénéfices. Alors parlons un peu des inhibiteurs de la DPP4 et plus largement des gliptines, qui sont considérées, cette classe est constituée donc de deux sortes de médicaments, les analogues de la GLP-1, qui est connue sous l'exénatide non commercial Byetta, et qui va s'enrichir d'une autre thérapeutique qui va sortir prochainement, qui va s'appeler le Victoza, je ne sais plus le nom générique, va s'appeler le Victoza, dont l'analogie avec la GLP-1 est beaucoup plus importante et qui, de ce fait, risque de prendre une place plus déterminante dans la stratégie du diabète de type 2 parce que l'efficacité sera supérieure à celle de l'exénatide égale Byetta. Donc pour l'instant, alors l'autre partie de cette classe des gliptides, ce sont aussi les inhibiteurs de la DPP4, autrement dit les enzymes qui détruisent la GLP1, qui a une demi-vie très courte. Donc on va inhiber la DPP4 qui détruit cette GLP1 de façon à prolonger un peu plus longtemps son action. Donc comme je vous ai dit dans le tableau précédent qui est dans le guide, leur place n'est pas précisée. Et dans une actualisation 2008, j'ai trouvé qu'ils pouvaient être associés à la metformine lorsque le régime alimentaire physique et metformine ne permettent pas un contrôle adéquat de la glycémie. Ça revient à la colonne bithérapie de tout à l'heure. Et effectivement, de même pour la glitazone, on peut associer glitazone et inhibiteur de la DPP4. Donc tout ça est assez rudimentaire, si je peux dire, en termes de précision, puisque la mise à jour dont parlait Jean-Louis de mots tout à l'heure n'a pas été réellement faite et qu'elle risque, d'après ce que j'ai entendu de la part d'Henri Jean, de traîner un peu pour des raisons un petit peu de, disons, de mauvaise harmonisation entre les diabétologues et la HAS concernant l'élaboration de cette mise à jour. Alors, quand le temps de l'insuline est arrivé, plusieurs schémas de traitement sont possibles. Donc, en bas, vous voyez, les insulinosécréteurs seront arrêtés, de même que les glitazones, on l'a dit. La metformine peut être avantageusement poursuivie à l'absence d'intolérance et de contre-indication dans l'objectif de limiter la prise de poids. Trois modalités de mise en place de l'insuline. L'insuline bedtime, on utilise une insuline lente ou semi-lente seule le soir. Alors, c'est bien le soir. On est certains disent que l'on peut faire cette insuline le matin. En réalité, il s'agit pour cette insuline d'avoir l'objectif de contrôler la néoglycogénèse hépatique, qui est une néoglycogénèse nocturne. Donc c'est bien par l'injection vespérale que l'on va contrôler cette glycémie du matin.
Il reste une minute et demie.
Déjà. Le basal bolus, c'est donc un analogue lent pour le contrôle de la glycémie à jeun, et l'insuline rapide pour les glycémies postprandiales. Et enfin, les insulines prémixtes, qui sont des mélanges en des proportions variables d'insuline rapide et d'insuline lente. Les autres facteurs de traitement, pour les raisons que vous devinez, je vais presser un peu, le LDL cholestérol doit être aussi pris en compte. On est très souvent dans un cumul de facteurs de risque qui va nous donner un objectif de LDL cholestérol à moins d'un gramme. Pour les hypertriglycéridémies, il est effectivement souhaité d'utiliser de préférence un fibrate. C'est quand même le faible contingent des patients dyslipémiques, le gros de la troupe se trouvant dans une élévation du LDL cholestérol. Et c'est donc les statines qui vont trouver leur place à ce moment-là. Le contrôle de la pression artérielle avec un contrôle autour de 13,8, adapté en fonction des patients, pour éviter évidemment chez ces diabétiques vieillissants les risques d'hypotension orthostatique et les complications qui peuvent en découler, en particulier en termes de chute. Pour ce qui est des médicaments de l'hypertension, là c'est vite fait, tout est possible. Tout est possible en sachant qu'on va avoir toutes les classes thérapeutiques utilisables et que le principe c'est de commencer par une monothérapie, d'empiler avec une bithérapie et une trithérapie si cela s'avère nécessaire. Le risque thromboembolique va être associé au traitement hypolipémiant et de faibles doses d'aspirine est recommandée chez le diabétique en prévention secondaire ou à risque équivalent, c'est-à-dire risque élevé. Et c'est souvent le cas chez les diabétiques au bout de quelques années, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les objectifs de poids, on essaie de ramener l'IMC quand c'est possible en dessous de 25. Et le sevrage tabagique, sur lequel on ne s'étendra pas, est aussi un élément important puisque pourvoyeur de complications macrovasculaires. Alors, les objectifs en dessous de 6,5 sont souhaitables pour les diabétiques d'apparition récente parce que vous savez qu'il y a la notion de mémoire glycémique, c'est-à-dire que si on obtient pendant les premières années d'évolution du diabète des hémoglobines glyquées basses, c'est aussi un travail de la FEDIAM, on a, par le fait de cette mémoire glycémique, quand on voit les patients, deux populations de patients, les uns qui ont eu des HbA1c basses, les autres plus élevés, au bout de la même durée d'évolution du diabète, s'ils sont tous les deux à la même hémoglobine glycée, les risques, les accidents, les complications sont plus importants chez ceux qui n'ont pas eu le contrôle le meilleur au début. Est-ce que je suis assez clair ? C'est ce qui justifie qu'on soit un peu exigeant en début de diabète pour justement imprégner en quelque sorte la mémoire glycémique de manière à ce que le passé, quand ce patient a vieilli, ce passé soit en sa faveur. Oui, alors très clairement, les glitazones actuellement sont un peu en perte de vitesse parce qu'on n'en a pas attendu, on n'en a pas obtenu tous les résultats qu'on en attendait. Il y a effectivement les contre-indications cardiaques qui justifient leur place en début de diabète avant que les patients aient développé une insuffisance cardiaque. Et puis ce point négatif de la prise de poids qui est un élément important. Donc il faudra savoir les réserver aux diabétiques pour lesquels l'insulinorésistance est l'élément qui reste au premier plan. Parce que pour l'insulinorésistance, on n'a que deux médicaments, c'est la metformine et les glitazones. Voilà. Donc il faut peser encore une fois dans l'évolution de mon diabétique. Où en est-il? Est-ce qu'il est uniquement en insulinorésistance? Est-ce qu'il commence à passer à l'insulinopénie? Et à ce moment-là, s'il est en insulinopénie débutante, la glitazone n'a plus sa place.
Donc j'ai l'honneur de participer pour la première fois aux journées Victor Segalen. Et je vais vous donner les informations utiles à notre pratique de médecin généraliste sur le dépistage, le suivi et le traitement de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, qui est donc le guide ALD3. Je vais essayer d'être concis et relativement pratique sur ce qui est de notre quotidien de médecin généraliste, puisque, comme vous, je suis d'abord un médecin généraliste. Les conditions d'exonération du ticket modérateur, ça c'est les conditions qui ont été éditées en mars 2007. Je vous présente cette diapo pour que vous sachiez ce qui relève et ce qui ne relève pas de la prise en charge au titre de l'ALD. Donc vous voyez bien que c'est les stades 2, 3, 4 de la classification de Le Richer-Fontaine. Mais il faut savoir qu'une atteinte cardiaque ou une atteinte cérébrale en plus de l'artériopathie fait partie d'un cumul d'ALD. Donc on peut avoir plusieurs ALD pour l'artériopathie et pour des problèmes vasculaires. Tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est issu donc du document complet de l'HAS qui est l'argumentaire et qui donc a été publié en avril 2006. L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs est donc caractérisée par un rétrécissement du calibre des artères qui irriguent les membres inférieurs, et ça se traduit par une chute de l'index de pression systolique. C'est donc le rapport de la pression artérielle systolique au niveau de la cheville par rapport à la pression artérielle systolique au niveau huméral, mais c'est mesuré à l'aide d'une sonde d'échodoppler. On y reviendra un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le problème des complications loco-régionales qui justifie aujourd'hui la prise en charge de cette artériopathie, mais que c'est le problème du risque cardiovasculaire que ça représente. Aujourd'hui, on pourrait dire que, et on doit dire que, d'après la recommandation HAS toujours, on doit dire que, au même titre que le tabac, au même titre que le diabète, l'artériopathie, en tout cas un score IPS inférieur à 9, à 0,9, pardon, est un risque cardiovasculaire, avant un risque de complications loco-régionales. Alors, qu'est-ce que nous préconise aujourd'hui cette recommandation? C'est qu'il faut dépister l'ischémie d'effort, qui est donc asymptomatique la plupart du temps. Il faut réaliser le bilan initial, et on doit établir la prise en charge et faire le suivi. Ça, c'est ce qui incombe, bien sûr, aux médecins traitants en général. En pratique, pourquoi est-ce qu'on doit dépister? Je vous l'ai dit, ce qui justifie la recommandation HAS, c'est donc que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, le taux de complications cardiovasculaires de l'ischémie asymptomatique est équivalent à celui de l'ischémie symptomatique, c'est-à-dire que AIPS équivalent, qu'on ait ou pas cliniquement une claudication intermittente, en fait, notre risque de complications cardiovasculaires est le même. Donc, l'HAS recommande de dépister cette artériopathie asymptomatique. D'après les études, certaines études, et il y a des divers résultats, ça va de 1 patient sur 2 à 9 patients sur 10 qui présentent un score IPS inférieur à 0,9, mais qui ne sont pas symptomatiques. Le bilan initial, il s'articule bien sûr entre nous, médecins généralistes, le cardiologue et le médecin vasculaire. Pourquoi ? Parce que la palpation des pouls, en fait, on doit la faire, mais on doit surtout faire la mesure de l'IPS pour le diagnostic, et je mets au défi un ou deux doigts de se lever pour me dire qu'ils ont une sonde d'échodoppler pour faire le score d'IPS dans leur cabinet. Ok, c'était un bon défi. Les radiologues qui vont faire l'échodoppler des membres inférieurs, alors il n'y en a pas là, mais je les mettrai pareil au défi de me dire ceux qui ont une sonde d'échodoppler, et en fait, eh ben, il n'y en aurait pas beaucoup non plus. Les cardiologues à qui on envoie, ils n'en ont pas non plus. Donc c'est les angios, en fait, qui font ça. Donc, notre rôle, c'est de faire le diagnostic, et on recherche bien sûr les signes cliniques éventuels, mais on identifie aussi les autres facteurs de risque cardiovasculaire, parce que, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. On fait le bilan d'extension locale, donc un échodoppler des membres inférieurs, et éventuellement un test de marche pour rendre les patients soi-disant asymptomatiques un peu plus symptomatiques et voir s'il y a une nécessité de prendre en charge la claudication intermittente. Bref, le bilan d'extension à distance doit comporter un échodoppler de l'aorte abdominale et un échodoppler artériel des vaisseaux cervicaux, un ECG de repos et une épreuve d'effort, mais ça, ce sera selon l'avis du cardiologue, ce qui impliquerait, même si ce n'est pas marqué noir sur blanc, qu'une fois qu'on a envoyé chez l'angio, une fois qu'on a fait notre bilan d'extension, local et à distance, il faut qu'on envoie chez le cardio pour savoir s'il faut faire une épreuve d'effort. La prise en charge thérapeutique. Encore une fois, en pratique, qu'est-ce que le guide HAS recommande de faire aux médecins généralistes ? On doit faire l'éducation thérapeutique, et si c'est écrit noir sur blanc, c'est que c'est important, et que c'est clairement dit qu'on doit donner aux patients une information sur la maladie, sur les traitements, et sur la nécessité pour lui d'avoir une implication dans la prise en charge de son traitement et de sa pathologie. On justifie d'une modification des modes de vie, ça je vous passe, mais c'est le tabac, la sédentarité, une diminution du poids s'il le faut. Les traitements pharmacologiques des facteurs de risque, on n'en parle pas là, et les traitements pharmacologiques spécifiques de l'artériopathie des membres inférieurs, ou en tout cas de l'ischémie d'effort asymptomatique. On devrait prescrire un antiagrégant plaquettaire dès qu'on a dépisté un artériopathe, donc un IPS inférieur à 0,9. On devrait donc le mettre sous antiagrégant plaquettaire ou clopidrogel, sous statine. N'importe quelle statine, a priori, c'est un effet de classe. Et sous IEC, celui qui a fait la preuve dans une étude de son efficacité, c'est le ramipril. Mais il supposerait, l'HAS l'écrit comme ça, qu'il y ait aussi un effet de classe. Et la prise en charge spécifique, mais j'y reviens pas, de la claudication intermittente, ça c'est autre chose, on n'a pas le temps aujourd'hui. En pratique, le suivi. On doit faire une mesure IPS annuelle, donc ça veut dire qu'une fois par an on envoie chez l'angio. On doit faire un échodoppler des membres inférieurs que s'il y a une aggravation, c'est-à-dire que si le patient devient symptomatique ou si sa symptomatologie s'aggrave malgré le traitement. S'il y a une aggravation ou un échec, on fait un bilan pré-intervention, mais c'est un avis spécialisé, donc ça ne nous incombe pas. L'échodoppler carotidien est justifié, il est justifié de le faire tous les 4 ans. Le CG de repos est annuel, et la biologie est annuelle avec une glycémie, les lipides, la créate, la protéinurie, la kaliémie. Bien sûr, si on a mis un traitement par statine, il est justifié de faire en début de traitement les transats, et les CPK, c'est uniquement s'il y a des symptômes musculaires. Et ici, dans le suivi en pratique, si vous êtes très vigilant et pas trop endormi par ma voix un petit peu monocorde, vous aurez vu qu'on ne reparle plus du tout de l'échodoppler de l'aorte abdominale. En fait, ça dépend de ce qu'on a trouvé au début, et c'est ça qui fait la justification ou pas d'une surveillance écho pour l'aorte abdominale. C'est juste dans le bilan initial. Ça, Ça, c'est la bibliographie. Je vous la laisse, vous l'avez. Ensuite, je vais être disponible pour vos questions. Je veux juste vous lire quelque chose qui est paru dans Prescrire en 2007 à la suite de la sortie donc, de ce guide ALD. Et c'est pour commencer à introduire vos questions et éventuellement les autres diapos que je souhaite vous présenter. Donc, vous le savez peut-être, la revue Prescrire passe au crible depuis quelque temps les guides ALD. Donc, dans ce guide de pratique clinique, la Haute Autorité de Santé fait sans preuve solide la promotion du dépistage de l'artériopathie asymptomatique des membres inférieurs par l'indice de pression systolique, alors qu'il s'agit d'un dépistage dont la balance bénéfice-risque est incertaine et qui n'est pas consensuelle. Donc vous voyez que malgré mon beau discours, malgré des choses qui soient à peu près claires, il semblerait que ce ne soit pas forcément sous-tendu par un grand niveau de preuve scientifique. Donc, qui réalise la mesure de l'IPA ? Alors c'est un peu les questions de médecine générale. Ça, on est bien d'accord, on sort du guide HAS que je vous ai présenté. C'est plus la réflexion du médecin généraliste qui est installé et qui doit appliquer ensuite ses recommandations HAS. Donc, qui mesure l'IPS, comme je vous ai dit, le vasculaire, ça oui, plus, le généraliste, plus ou moins, il y a quelques généralistes équipés. Les radiologues, il semblerait que ce soit pas beaucoup, et les cardiologues non plus. Est-ce que vraiment l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs asymptomatique est un facteur de risque cardiovasculaire en soi? Si on se pose la question, il semblerait que les études de mesure de l'AOMI en tant que facteur de risque indépendant des autres choses, la réponse soit oui, et c'est ce qui justifie une prise en charge spécifique. Est-ce qu'on doit, et c'est là que ça commence à être un petit peu plus délicat, est-ce qu'on doit dépister tous les sujets à risque cardiovasculaire? Est-ce qu'il faut que ce risque cardiovasculaire soit élevé ou non? Et là, en fait, c'est pas clairement défini parce qu'en fonction des études de prévalence, on a choisi des patients tout venant ou on a choisi des patients avec un facteur de risque ou deux facteurs de risque. Et l'étude sur laquelle se base l'étude que je vous l'ai mise ici, c'est l'étude de Beaucalon, en fait, sur laquelle se base cette nécessité de dépister les ischémies d'effort asymptomatiques. En fait, quand ils donnent le pourcentage de patients qui sont donc, je crois, de l'ordre de 12% des patients consultants en médecine générale de plus de 40 ans, c'est une extrapolation. C'est pas vraiment la mesure de tous ces patients-là, c'est une extrapolation par rapport au pourcentage de patients de 40 ans, le pourcentage de patients qui ont un facteur de risque. Donc c'est pas une mesure directe. Donc c'est pas clairement défini qui est-ce qu'on doit vraiment dépister pour avoir un bénéfice en termes de santé pour ces patients-là. Est-ce qu'il y a une justification du traitement par IEC, voire même on voit apparaître les AA2, hormis chez l'hypertendu? Alors, cette recommandation, vous savez peut-être, enfin j'espère, en tout cas, il y a différents niveaux de recommandation dans l'HAS. Grade A, c'est des études grosso modo randomisées, double aveugle, et qui sont assez étendues pour qu'on ait vraiment une différence significative statistique qui nous donne le niveau de preuve. Il y a ensuite un grade B qui sont des études en fait plutôt de surveillance, et le grade C qui vient avec ça, c'est des petites études ou alors c'est pas tout à fait vraiment prouvé statistiquement. Donc la justification du traitement par IEC, je dirais, ce n'est qu'une recommandation de grade C actuellement, j'ai pire après. La justification de la statine et des antiagrégants plaquettaires, c'est une extrapolation sur d'autres populations, en fait, dans l'étude, je crois que c'était l'étude HOPE, je me trompe peut-être. Donc cette recommandation HAS, ce n'est que sur un accord professionnel. Je ne vous dis pas comment était constitué le comité de travail, en fait, mais il y avait beaucoup de vasculaires, il y avait très peu de médecins généralistes, en fait, il y avait un médecin généraliste. Alors, est-ce que, d'après l'HAS, est-ce qu'on ne parle plus de la classification de Lerich et Fontaine? Alors, comme vous l'avez vu, dans la classification de l'artériopathie, on n'en parle plus, mais pour le protocole PIRES, en fait, on en parle encore. C'est vraiment les stades 2, 3, 4 de cette classification. Donc c'est un petit peu difficile pour nous de jongler entre tout ça. Est-ce que la réévaluation de la recommandation a été faite depuis 3 ans, en fait? C'est non, à ce jour, elle n'est pas réévaluée. Et je dirais, pour avoir la validité vraiment de cette recommandation-là, ce qui nous manque beaucoup, c'est aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il faut dépister, on sait que c'est un facteur de risque cardiovasculaire et qu'on a les recommandations pour le traitement, il manque quand même une étude de morbimortalité sur une population d'artériopathie des membres inférieurs asymptomatiques qui serait traitée selon les recommandations et qu'on pourrait suivre comme ça sur une cohorte ça nous donnerait, ça avaliserait ou invaliderait cette recommandation.
Donc, Guy d'Aldequin sur maladie d'Alzheimer et autres démences, on a décidé, vu l'importance de ce guide, 32 pages, de se centrer sur l'utilisation pratique du guide en médecine générale, en pratique de ville. Quand on a 32 pages, il faut d'abord les avoir lues et en avoir extrait ce qui pouvait nous intéresser. Donc on a essayé de faire ce travail-là, d'extraire ce qui pouvait être scientifiquement valide dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer essentiellement et des autres démences. Dans les conditions d'exonération du ticket modérateur, là c'est assez simple, dans la mesure où il faut que le diagnostic soit posé pour qu'il y ait exonération du ticket modérateur. Une petite remarque, vous avez entendu parler des recommandations pour la pratique clinique, des argumentaires, des synthèses. Les guides ALD, c'est encore autre chose, c'est une aide à la prise en charge des affections longue durée, et ils sont complétés par la liste des actes et des prestations qui sont prises en charge au titre de l'affection longue durée et qui sont un excellent outil aussi parce qu'il y a souvent les conditions d'exonération du ticket modérateur et cela peut nous aider à remplir un formulaire PIRES. Alors, le médecin généraliste, pourquoi ? Ce qu'il faut noter, c'est que 2/3 des patients présentant une maladie d'Alzheimer sont maintenus à domicile. Que la prise en charge de cette pathologie s'inscrit dans la durée, ça on le vérifie tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est de noter, c'est que 50% seulement des patients malades sont identifiés et que le diagnostic se ferait 2 ans et demi à 3 ans après le début de la maladie. Et ce délai serait rallongé si on a moins de 65 ans. Alors, pourquoi ça peut être intéressant? Non pas pour se culpabiliser de ne pas faire un diagnostic précoce, mais au contraire pour savoir que le guide, là, nous aide. La petite lumière qui peut s'allumer, c'est quelqu'un de moins de 65 ans qui se plaint. Eh bien, peut-être qu'il faut le prendre un peu plus en considération que de vouloir le réassurer systématiquement. Le diagnostic positif, deux choses, c'est quand est-ce qu'on doit instaurer une démarche, et après on verra comment instaurer la démarche. Quand instaurer la démarche, vous voyez, il y a 3 groupes. Le patient qui se plaint, et souvent, quand il se plaint, le bilan initial est négatif, mais il peut être modifié et pathologique. Deuxièmement, c'est l'entourage qui remarque. Et troisièmement, ce sont les circonstances cliniques qui font que l'on doit rechercher une pathologie de la cognition. Le diagnostic positif, c'est comprend donc l'évaluation initiale, c'est-à-dire quoi faire. Alors, ce que vous pouvez voir sur le diagnostic positif et de l'examen clinique, c'est qu'on nous recommande d'avoir la plupart du temps, avec l'accord du patient, un accompagnant. C'est surtout intéressant pour la deuxième catégorie, c'est-à-dire pour les gens qui sont accompagnés et qui viennent accompagner. Vous remarquez que la première partie de la rencontre clinique avec le patient est très développée, antécédents, type et origine de la plainte, histoire de la maladie, symptômes, comorbidité, évaluation thymique. C'est volontairement que cet entretien est hypertrophié dans la mesure où cette partie de la rencontre avec le patient et son entourage est fondamentale parce qu'elle permet d'avoir accès à l'histoire de vie du patient et surtout aux représentations du patient et de son entourage quant à cette maladie qui est extrêmement médiatisée. Qui dit entretien long dit technique d'entretien. Il est évident que dans ces techniques d'entretien, il faudra essentiellement développer les questions ouvertes et non pas les questions fermées. Il faudra savoir que c'est un entretien qui est chronophage. C'est un mot technique assez vilain. Disons que ça prend du temps, mais il faut considérer que ça prend du temps. Et dans notre pratique quotidienne, le temps est quelque chose d'important. On en reparlera par la suite. L'examen clinique, je n'insiste pas, je ne le décris pas, il est sur la diapositive et dans les documents écrits que vous avez. Alors ensuite, quand on prend le guide nous dit les examens que l'on doit faire. Alors, les examens que l'on doit faire, en dehors de l'examen clinique, il ne cite le guide, de façon bien précise, que le test IADL et que le MMSE. Mais j'ai rajouté les tests psychométriques courants parce que dans la conduite à tenir, le guide nous parle de ce qu'on appelle, il appelle ça, il n'appelle pas ça les tests courants, il appelle ça, je vais vous dire le terme exact, les tests brefs de repérage. Donc quand j'ai repris la recommandation, j'ai recherché les tests brefs de repérage, je ne les ai pas trouvés. Donc tout ça pour vous dire que tout ce qui vous est dit là vient du guide ALD de l'HAS, sauf les tests psychomotriques courants ou les tests que j'ai pris pour des tests brefs de repérage et qui ont été pris chez le professeur Dartigues, qui est bien connu à Bordeaux, dans l'étude PACUI. Alors, le test IADL, c'est extrêmement précis, il est décrit, c'est un test IADL résumé qui pose 4 questions. Utiliser le téléphone, utiliser les transports, seul, prendre les médicaments et gérer ses finances. La réponse sur la normalité est extrêmement simple, elle est écrite. La nécessité d'une aide à au moins une de ces items constitue un retentissement significatif sur l'activité quotidienne du patient. Donc, une seule atteinte sur ces 4 items, c'est pathologique. On nous le dit, on ne nous demande pas de discuter, là on nous dit ça. Le mini mental status examination, on nous dit qu'à moins de 24 sur 30, on peut considérer qu'il peut y avoir une démence. Je vous parlerai après des tests psychométriques courants. Donc ce que nous dit le guide, une fois que vous avez fait cet examen clinique, cet entretien, l'examen clinique, le test IADL et le mini mental status examination, ils nous disent, si en dépit donc de la plainte du patient ou de l'entourage, l'évaluation initiale, et ils nous disent ce qu'est l'évaluation initiale, je vous le lis. Si les fonctions cognitives, donc du MMSE, et des tests brefs de repérage, dont là, le guide ne nous parle absolument pas. Donc c'est une critique de ce guide. Comment nous dire d'utiliser des choses sans nous dire lesquelles utiliser? Deuxièmement, si les activités de la vie quotidienne ne sont pas perturbées, si le contexte clinique n'est pas perturbé, donc ça, c'est ça une évaluation initiale normale. Donc ça veut dire qu'une seule perturbation signifie que c'est pathologique. Il faut que l'ensemble, c'est « et », c'est pas « ou ». Donc si tout est normal, et s'il y a plainte, on peut, on doit proposer une réévaluation 6 à 12 mois plus tard. Ça, c'est extrêmement concret. Alors du coup, je suis allé voir ce que pouvaient être les tests de repérage rapides. Donc là, le niveau de preuve est le plus bas, puisque c'est le niveau de preuve d'un généraliste qui pratique la médecine générale et qui est enseignant universitaire. C'est un niveau de preuve bas, mais c'est un niveau de preuve qui existe, qui a le mérite d'exister. Et on peut en signaler 3, qui sont l'épreuve du rappel des 5 mots de Dubois, le test de l'horloge et le test de fluence verbale. Si on a le temps, si ça vous intéresse, on pourra en parler à la fin, mais je ne suis pas sûr que ce soit le débat aujourd'hui. Donc simplement pour vous dire que les tests de repérage, bref de repérage, on ne sait pas ce que c'est en regardant le guide. Donc si l'évaluation initiale est en faveur d'un déclin cognitif, là c'est très bien, c'est très simple, on nous dit il faut adresser à un centre de mémoire ou un spécialiste. Alors ça signifie d'abord d'identifier le spécialiste. Pourquoi un spécialiste? Parce que ce sont les seuls qui sont autorisés à initier un traitement anti-maladie d'Alzheimer. Nous n'avons que la possibilité de les renouveler. Ces spécialistes, ce sont les gériatres, les neurologues ou les psychiatres. On nous dit également un centre de la mémoire. C'est intéressant de noter ça, ça c'est dans l'idéal, mais dans la pratique quotidienne, ça met en évidence le problème des réseaux de soins. Et il y a certains endroits où il n'y a pas de centre de mémoire, où les délais d'obtention d'un rendez-vous peuvent être de plusieurs mois. Les examens complémentaires, a priori, ça ne nous concerne pas, puisque dès qu'on a fait l'évaluation initiale, on doit adresser au spécialiste pour qu'il pose le diagnostic et qu'il initie éventuellement un traitement. Simplement, nous avons quand même une marge de manœuvre et ce guide nous aide, dans la mesure où si on peut considérer que cela fait gagner du temps au patient, on peut prescrire le bilan biologique et examen complémentaire initial. Et là aussi, les choses sont extrêmement claires. Il y a une liste d'examens qui nous est donnée, que je ne vais pas vous relire, et qui se trouve sur cette diapositive. Au niveau de l'IRM, les choses sont claires aussi. On nous dit que c'est une IRM de préférence ou un scanner sans injection en cas de contre-indication à l'IRM. L'intérêt d'un guide, c'est d'avoir des réponses extrêmement précises. Une remarque, ça ne veut pas dire que tout le monde suit ces recommandations. Mais ça veut dire qu'elles ont au moins le mérite d'exister et qu'elles reposent sur des niveaux de preuve, comme vous a dit William, plus ou moins importants. Le tout pour nous, dans un deuxième temps, c'est de pouvoir avoir une lecture critique et savoir à quel niveau on se place pour certaines affirmations. L'annonce du diagnostic est très développée dans le guide. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le médecin qui établit le diagnostic est responsable de son annonce. Alors on pourrait dire que l'on est totalement exclu de ça, puisque ce n'est pas nous à qui on demande de poser le diagnostic, mais un spécialiste. En réalité, non. Le médecin qui établit le diagnostic est responsable, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément l'acteur. C'est pas forcément lui qui annonce le diagnostic. Et dans la vie quotidienne, dans la pratique du médecin généraliste, vous avez annoncé des diagnostics de maladie. On a annoncé des diagnostics de maladie d'Alzheimer, et c'est tout à fait justifié, puisque la place que nous fait le guide dans l'annonce du diagnostic, c'est que ça doit se faire en coordination avec nous, et donc on peut le faire. Donc on va passer sur tout ce qu'on dit, c'est que ça peut être effectué en plusieurs étapes. Là, j'ai l'impression de vous dire la prose que l'on fait quotidiennement sans le savoir, et ça veut dire que ce qu'on fait quotidiennement, ça repose sur des recommandations qui nous sont données, qui sont inscrites. Quel est l'intérêt de l'annonce du diagnostic? Ce n'est pas forcément de donner un médicament, mais c'est d'éviter le fantasme de la maladie et de poser un nom sur une maladie. Poser un nom sur une maladie permet au patient, qui très souvent est tout à fait capable de comprendre qu'il commence à aller mal, mais surtout à son entourage, de poser un diagnostic et d'envisager une prise en charge et un suivi à long terme. D'où l'intérêt quand même de la clarté, si possible, dans le diagnostic et de la personne accompagnante. Là, je vais aller assez vite sur les traitements pharmacologiques spécifiques. Le guide dit des choses extrêmement précises en fonction du mini-mental status. Donc, je ne vais pas commenter ça. C'est ce qui est inscrit dans le guide. Ce qui doit quand même nous guider, c'est le rapport bénéfice-risque de l'instauration d'un traitement chez des gens souvent âgés, et qu'on peut aussi avoir un esprit critique par rapport à cela en utilisant d'autres sources que l'HAS. Et effectivement, la revue Prescrire dont parlait William Durieux est assez critique sur le fait que la plupart des recommandations de l'HAS font une part belle à la prescription médicamenteuse. Je n'ai pas la compétence ni le niveau de preuve suffisant pour juger, mais nous sommes garants de ne pas donner de perte de chance à nos patients, et c'est à nous d'évaluer avec eux le rapport bénéfice-risque. Par contre, il y a des choses qui sont extrêmement claires et qui nous sont dites et qui peuvent nous aider dans l'accompagnement thérapeutique du patient quand il revient avec certaines ordonnances. En l'état actuel des données, il n'y a pas d'argument pour recommander une bithérapie, quelles que soient les circonstances cliniques. Ça, c'est quelque chose d'écrit noir sur blanc et très clair. Et il y a également le fait qu'il n'est pas recommandé d'arrêter des traitements sur les seuls critères du score, d'un score clinique, d'un score MMSE, d'âge ou d'entrée en institution. C'est pas parce qu'on entre en institution qu'il faut forcément arrêter un traitement anticholinesthérasique. Ce qui est intéressant en creux au niveau de la thérapeutique, c'est certaines choses qui sont écrites noir sur blanc dans le guide et que je vais vous dire. Ces choses-là, ce sont que les médicaments suivants, donc je vais vous parler, n'ont aucun niveau de preuve.
Une minute et demie.
N'ont aucun niveau de preuve suffisant dans la maladie d'Alzheimer. Les antioxydants, le ginkgo biloba, les nootropes, les AINS, les hormones, les oméga-3 et les hypocholestérolémiants. Ceci peut être une aide pour nous à la non-prescription ou à l'explication de la non-prescription. La dernière chose, c'est que le traitement pharmacologique non spécifique est important. Les antipsychotiques sont déconseillés. Les antidépresseurs, les IRS, oui, dans certaines circonstances. Les anxiolytiques, oui, mais de manière non continue, avec des demi-vies courtes. Les hypnotiques, oui, mais à la limite un seul dans le rapport bénéfice-risque, la zopiclone. Les antihistaminiques, non. Par contre, regardez toute la prise en charge non médicamenteuse. Elle nous rend modestes et elle nous rend notre poste de coordonnateur des soins au milieu de tout un tas d'intervenants qui peuvent aider le patient. Par contre, on ne peut pas prescrire, mais voilà tout ce qu'on doit faire dans le suivi et tout ce que l'on fait la plupart du temps, c'est vous dire que pour tout ça, notre rôle est effectivement revendiqué, ce qui est pas mal en dehors de la prescription. Les tâches du médecin généraliste, c'est bien sûr écouter pour entendre. Je vais simplement vous laisser lire cette diapositive en vous disant que pour faire ce travail, il faut être aidé. Par exemple, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Sachez que, par exemple, la nomenclature nous aide, mais nous aide de manière non scientifique, puisque, par exemple, on nous conseille de faire les tests, les mots de Ré. Vous pourrez voir ça dans la nomenclature, qui sont cotés 70 euros, mais qui ne figurent pas dans les recommandations de l'HAS. Et enfin, je lisais ce matin, en venant de Bayonne ici, dans le journal, une phrase par rapport à l'aide du médecin généraliste. Je disais, le temps est venu d'attacher la même attention qu'à l'hôpital et au personnel hospitalier à la médecine de proximité. C'était signé Nicolas Sarkozy hier, le 24 mars 2010. Merci. Alors, c'est très simple. On n'a aucun niveau de preuve dans les prises en charge médico-sociales et dans tout ce qui n'est pas thérapeutique.
D'accord.
Aucun niveau de preuve. Je vais quand même vous donner le guide. Nous dit qu'on n'a aucun niveau de preuve, mais nous dit que ces méthodes sont importantes dans la prise en charge, même sans niveau de preuve. Et elle nous cite des prises en charge thérapeutiques que j'ai relevées, qui sont très larges, puisqu'elle nous cite la musicothérapie, l'aromatothérapie. Elle nous cite la luminothérapie, quelque chose que je ne connais pas, qui est la réminiscence thérapie, la thérapie avec les animaux, etc. Donc ces choses-là sont écrites noir sur blanc par l'HAS. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas validé avec un haut niveau de preuve qu'il n'est pas utilisable. Ce qui est important, et c'est la règle de notre fonctionnement avec l'evidence-based medicine, c'est toujours de savoir à quel niveau on se place pour parler. Mais on peut très bien avoir des niveaux de preuve bas, mais des choses extrêmement intéressantes à utiliser pour les patients, parce qu'on n'a pas encore de niveau de preuve ou parce que c'est difficile à mesurer.
Mais moi, je les utilise tous les jours, ça, voilà, mais est-ce qu'on a des niveaux de preuve? Et j'en suis très satisfaite quand même.
Voilà, alors ce que vous donnez là, c'est une illustration de ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas de niveau de preuve, mais qu'on peut être satisfait de choses sans un niveau de preuve. Il y a au niveau de la, mais là il y a d'autres choses. Il y a certainement l'industrie pharmaceutique qui a son mot à dire et qui intervient. Mais toujours est-il qu'il n'y a aucun niveau de preuve sur la durée des traitements, les conditions d'arrêt d'un traitement. Alors l'HAS s'en tire très bien en nous parlant de la balance bénéfice-risque. Mais si on regarde les risques des anticholinestérasiques et autres, on peut tout à fait justifier un arrêt ou la non-prescription de ces médicaments. Là aussi, tout dépend de l'endroit où on se place. Et effectivement, en énumérant à l'entourage ou au patient les risques qu'il peut prendre avec un traitement, il peut tout à fait refuser de manière éclairée ce traitement. La question se pose de manière beaucoup plus éthique et beaucoup plus difficile quand la personne n'a plus aucune possibilité de donner une réponse. Mais il y a toujours normalement dans les institutions une personne de confiance. C'est quand même à nous, généralistes, de coordonner des soins et de temps en temps, même si c'est pas facile, de se reposer la question du renouvellement. Parce que l'HAS nous dit quand même, on peut prescrire des produits hors AMM, mais c'est celui qui est prescrit qui est responsable de sa prescription. Et quand vous renouvelez une association, et ça, j'exagère, et que c'est long, mais c'est peut-être à peine, c'est nous qui sommes responsables du renouvellement de la prescription.